Nous lisons ce matin dans l'Évangile selon Luc, l'un des trois textes qui nous sont proposés pour aujourd'hui, dans le chapitre 9, Luc 9, les versets 51 à 62. Lorsque le moment approcha où Jésus devait être enlevé au ciel, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui, ceux-ci partirent et entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer tout le nécessaire. Mais les habitants refusèrent de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand les disciples Jacques et Jean apprirent cela, ils dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre des cieux et de les exterminer ?» Jésus se tourna vers eux et leur fit des reproches, et ils allèrent dans un autre village. Ils étaient en chemin lorsque quelqu'un dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cette personne dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus répondit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore dit, « Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui dit, « Celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le règne de Dieu. » Aujourd'hui, l'évangile de Luc nous sert un plat assez copieux, presque bourratif. Rien que l'introduction, d'ailleurs, annonce la couleur. Jésus tourna résolument son visage vers Jérusalem. Il faut traduire, il prit une décision sérieuse, impérieuse même, et de ne plus regarder en arrière. C'est un Jésus déterminé qui se met en route vers son destin. Nous sommes comme les narrateurs omniscients, nous savons le début, le milieu et la fin de l'histoire. Son destin, c'est la passion, la mort et la résurrection. Mais ce texte, aussi sérieux et dramatique soit-il, nous permet aussi, peut-être, de réfléchir à notre propre manière d'être disciple. Tout ici est question de suivance, comme on dit, de suivre Jésus. C'est l'expression la plus simple qui caractérise notre raison d'être. Finalement, elle pourrait résumer tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons, et c'est justement celle que Luc utilise pour les disciples. Mais ce n'est pas seulement pour faire preuve d'obéissance et d'abnégation. Vous voyez, le mot obéissance est teinté quand même de cette charge d'obligation, pas forcément drôle. Ici, c'est aussi, être disciple, apprendre à vivre pleinement, avec confiance, et aussi parfois avec un brin d'ironie ou d'autodérision. Tous ceux qui croisent Jésus dans ce passage en ont bien besoin. Comme le temps approchait où il devait être enlevé au ciel, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Cette petite phrase anodine dévoile tout de même un choix terrible peut-être. Essayez d'imaginer tous les chemins qui se présentent une fois que le choix de la destination a été fait. On peut tout de même passer par où on veut, il y a plusieurs options, on peut prendre la route touristique, le chemin tranquille, ou comme lui, le chemin de la passion, parce que c'est vers cela qu'il chemine, avec des difficultés insurmontables à vue humaine, rejet, souffrance, la croix, et tout l'ensemble de cette séquence terrible, trahison incluse. Jésus choisit sans hésiter la plus difficile de toutes les routes. C'est un petit peu comme choisir de grimper l'Everest avec des sandalettes et par la face nord, par-dessus le marché. Pourquoi fait-il ce choix si difficile? La réponse la plus simple, en tout cas c'est celle que j'ai trouvée, elle est peut-être simpliste, parce qu'il est venu pour ça. C'est en général ce qu'on répond aussi. Il était là pour ça. En tout cas, il n'hésite pas une seconde. Mais c'est quand on nous dit ça que nous, nous commençons à douter. Pourquoi, parmi toutes les solutions qui s'offraient à lui, il a choisi la plus dangereuse, la plus dramatique? Personne parmi nous n'aurait fait ce choix. Et puis, on aurait pu lui donner des conseils avant ce mauvais choix. Il aurait pu continuer son ministère en prenant moins de risques, en évitant les provocations inutiles, ne pas chatouiller les uns et les autres sur les questions de sabbat et autres questions controversées. Il aurait pu installer son école tranquillement à côté des autres dans une concurrence libre et non faussée. Ça aurait été bien. Pourquoi cet engrenage du pire? La crainte des disciples face à un choix qui ne peut pas être le nôtre. Cette crainte est aussi la nôtre, d'une certaine manière, parce que c'est toujours la tentation de garder le maître avec nous, c'est-à-dire en fait de l'empêcher de faire ce pourquoi il était venu, alors que son parcours à eux est plutôt jalonné de déclarations parfaitement claires. Hein. Je vais aller jusqu'au bout parce que je le veux, je partirai, certes, mais vous ne serez pas seul, je ne vous laisserai pas seul. Combien de fois ont-ils entendu ça, sous une forme ou sous une autre? Et si l'objectif était tout simplement de nous faire comprendre que la foi est une sorte d'aventure ou de voyage, et comme toutes les aventures, il y a des retards, des pièges, des galères, les grèves au moment des départs en vacances. Et puis, heureusement, il y a aussi des paroles qui restent tant qu'il y a des oreilles pour les entendre. Il y a ça aussi dans l'aventure, à commencer par celle qu'on n'attendait pas. En route, Jésus envoie ses disciples en éclaireurs. Pour ça, c'est normal, ils sont encore en apprentissage et ça doit normalement, si j'ai bien tout compris, faire partie de leur stage en fin de cursus, de se casser le nez sur de l'inconnu. Il paraît que c'est formateur. Parti plein d'entrain, il tombe sur un village de Samaritains. Et là, c'est le choc, le refus net. L'accueil est aussi chaleureux que le chien méchant qui vous attend au milieu du jardin, vous savez, entre la clôture et la porte de la maison. Vous êtes coincé avec lui au milieu du jardin, avec son sourire de faucheton et ses canines de 4 cm. Pourquoi ce rejet? Pas d'explication là-dessus. Mais la réaction de Jacques et Jean, qui sont les sanguins hein, de l'affaire, est immédiate. « Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel pour les consumer ?» Bah, rien que ça. Évidemment, le ressentiment, la colère, etc., ce sont des sentiments humains que nous comprenons parfaitement. Nous arriverions à trouver pour nous-mêmes toutes sortes d'exemples de sentiments pas très positifs. Mais tout de même, s'ils avaient contemplé, un peu étonnés, ébahis, effrayés aussi, comme nous en ce moment, la pluie de missiles et de drones qui tombent un peu partout sur Terre, auraient-ils dit la même chose ? Ils auraient peut-être réfléchi avant de parler. Jésus ne reprend pas leur humeur. Très calme, il les regarde et se contente, sans qu'on sache s'ils se sont dit quelque chose, de les rabrouer gentiment. Ils ont eu chaud. C'était pas très mérité quand même, le feu du ciel. Non merci, il viendra bien assez tôt. Je préfère la patience, la miséricorde, je préfère que ça vous plaise ou non, que vous soyez capable de me suivre ou pas, prendre le temps nécessaire et tenter d'installer tranquillement, moi, je vous dis tranquillement, le changement que je souhaite dans la marche du monde. Question de pédagogie. Il vaut mieux patienter que tous montent dans le train plutôt que de leur botter l'arrière-train. Ouais, je ne suis pas très content de celle-là, mais je l'ai mise quand même. Elle m'a demandé peu de travail. Mais il y a eu un conseil presbytéral très long hier et je suis rentré assez fatigué. Je pense que vous pourrez comprendre. Quand on est rejeté, ça ne sert à rien de sortir sa pétoire, ni pour les autres, ni pour soi-même. Jésus les rabroue gentiment ou les ramène dans sa propre tranquillité pour leur dire « Essayez d'avancer, sans rancune. Ouvrez vos portes avec amour, essayez donc de faire ça. Peut-être parce que la bonne nouvelle à annoncer était formulée dans un jargon incompréhensible, y avez-vous pensé, chers disciples ? Peut-être qu'elle était bien formulée, que les expressions, les mots choisis étaient les bons, mais que ce n'était pas le bon moment. Ce qui n'a pas marché une fois n'est pas condamné à l'échec perpétuel, il faut réessayer. C'est ça l'espérance, une sorte de ténacité, de presque une forme d'entêtement. Essayer, réessayer. Et puis là, tout à coup, chemin faisant, les choses se compliquent encore un peu. Voilà trois personnes qui veulent suivre Jésus. Alors, quand des gens veulent nous suivre ou nous rejoindre, évidemment, nous sommes tout contents. Personne ne les jette dehors, on les assied, on leur donne quelque chose à boire, à manger, à écouter, etc. On ne jette pas les gens dehors. C'est bien que des gens viennent voir Jésus pour lui dire « Je te suivrai partout où tu iras ». Vous voyez que la boursouflure et la grandiloquence des exaltés, hein ?« Je te suivrai partout où tu iras ». Jésus ne rabroue pas ici. Mais sans être raide avec eux, il met quelques conditions quand même pour faire partie de l'aventure. Le premier candidat est un enthousiaste. Vous savez que enthousiaste, ça veut dire avoir Dieu en soi. Hein ? Il a bien de la chance, celui-là. L'enthousiaste commence avec l'exaltation qui est la sienne. « Je te suivrai partout où tu iras », motivé, gonflé à bloc, hein, comme une montgolfière. Jésus le regarde, sourit peut-être. Moi, je l'ai imaginé en train de sourire. Ah oui, lui, dans la bande, c'est l'exalté. Et il lui répond cette phrase qui vaut la peine, hein, quand même. Hein. « Les renards ont des tanières ». Les oiseaux ont des nids, mais moi, etc., etc. En fait, je n'ai même pas un deux pièces cuisine à Nazareth. Rends-toi compte. Tu veux me suivre ? D'accord, mais oublie le confort. Avec moi, c'est du sans contrat, je t'ai prévenu. Pas de cotisation pour la retraite, pas de participation, pas d'intéressement, pas de comité d'entreprise généreux. C'est fini tout ça. C'était avant. Mais oublier comme ça les sécurités qui nous ont coûté cher, est-ce possible pour nous ? C'est inquiétant, bien sûr. Pas concrètement, bien sûr, puisque les exemples le sont, mais ils nous parlent sans doute d'autre chose. Oublier les sécurités qui coûtent cher, c'est spirituellement inquiétant. Mais c'est aussi, c'est la contrepartie, apprendre à vivre léger, avec confiance, et parfois spirituellement aussi, pourquoi pas, vivre à la... Dormir à la belle étoile, sortir un peu, encore l'aventure, encore le voyage. Ça sent les vacances un peu, non ? Et puis, y a aussi le candidat organisé. Lui, c'est pas le genre à acheter son billet de train la veille. Hein. La veille du départ, il a tout préparé de longue date. C'est carré comme un camp scout. Il a tout préparé. Mais il demande un petit délai. Alors, laisse-moi enterrer mon père. Oh, ben, c'est bien normal, non ? La réponse vient tout de suite après. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume. On se demande si on ne préférait pas les histoires de renards, de tanières juste avant. C'était plus simple, hein, finalement. Quelle drôle de manière de rappeler l'urgence et les priorités. Parce que c'est de ça qu'il est question, évidemment, derrière. Mais pourtant, très souvent, nous aussi, il faut choisir, pas forcément ce que nous avions attendu, réorganiser notre petit planning, revoir nos priorités. Ça nous arrive. Mais surtout, dans cette phrase, il y a laisser la mort en dehors de la vie, tant qu'il y en a. La mort surprenante ou attendue, elle vient bien assez tôt. Le royaume est fait pour les vivants. C'est pour nous, tout de suite, là, maintenant. Et puis, il y a le troisième candidat. On reçoit toujours trois candidats, hein, c'est pour avoir le choix. C'est comme les devis, finalement. On en fait au moins trois. Il y a le bon fils de famille, un peu sentimental. « Je te suivrai, Seigneur, hein, partout où tu iras. Mais laisse-moi d'abord aller faire mes adieux à ma famille. » Allez, va faire un béco à maman. Hein, il t'attend sur le perron. Réponse cinglante, mais pleine de sagesse, celui qui met la main à la charrue, ça c'est pareil, hein, ça a dû lui faire drôle d'entendre ça, alors qu'il voulait embrasser son papa et sa maman, hein. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume. Traduction agricole, si tu laboures en regardant derrière, tes sillons ne seront pas terribles et bon courage pour récolter quoi que ce soit. Le disciple regarde devant, pas bloqué dans le passé, ni la nostalgie, ni dans les si seulement, comme celui-ci, qui a déjà envie de regarder en arrière. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Nous sommes souvent, nous, comme ces candidats, pleins de bonne volonté, mais avec quelques petites restrictions, et il y a de bonnes raisons pour ça. Je te suis, mais... Je veux bien m'engager, mais d'abord, etc., etc. Pour tous nos projets à venir, ici, les nôtres, bien sûr, nous ne pourrons pas attendre le moment parfait, parce que ça n'existe pas. Il faut répondre maintenant avec ce qu'on est et comme on est. Et c'est difficile quand il faut prévoir, planifier et calculer la moindre ressource à engager. Mais il faut bien se lancer. Il y a des jours où ce qu'on nous présente comme la foi est comme une couverture bien chaude. C'est les moments où on la préfère, comme ça. D'autres où c'est une très mince couverture de survie, vous savez, comme sur les lieux d'accident, le truc doré qui ressemble à une feuille, là. Parfois, c'est aussi un sac à dos qui alourdit, ralentit notre marche. Elle nous gêne. Il faut la trimballer, sa foi. C'est variable, mais dans tous les cas, on avance même un petit peu. Et puis on n'est jamais seul. J'aime bien l'idée que celui qui rabroue gentiment les disciples, après tout, il ne les a pas chassés, est le même que celui qui tient la carte et qui sait où je vais, et qui porte aussi de temps en temps mon sac. J'aime bien cette idée. C'est pas de Luc, hein, on ne le trouve pas, c'est moi qui l'imagine, vous en ferez ce que vous voudrez. Regarder en arrière, ça nous arrive aussi, c'est humain, mais habiter le présent avec confiance, c'est mieux. Ça n'empêche pas les échecs, les blessures, les retards, mais le royaume, c'est maintenant. Et il vaut la peine de lâcher le rétroviseur. Vous voyez dans ces quelques lignes les réponses un peu rudes, un peu radicales de Jésus sont au fond moins dangereuse, plus sage que ce qui sortait de la bouche des disciples, le feu du ciel. L'exigence de ces quelques lignes a peut-être de bonnes chances de nous conduire un peu plus loin que les candidats au royaume qui ont toujours mieux à faire. Si nous organisons nos journées exactement comme les leurs, le royaume n'est pas une question de planning. Il est dans une veille attentif, il est dans un se tenir prêt. Et c'est difficile à vivre parce que nous avons besoin de nous reposer, c'est-à-dire de déconnecter l'état de veille. Mais un présent confiant, c'est une arme de construction massive. Amen.